s'y prête très bien. Donc, on va l'utiliser. Alors, prions et puis après ça, on débute. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cette occasion que tu nous accordes de sonder tes écritures, de sonder ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de nous inspirer, d'ouvrir notre entendement et de nous bénir, Seigneur, d'une grâce toute particulière de ta part qui nous permet de saisir ta pensée et de la faire nôtre, afin que celle-ci, en s'imprégnant dans nos vies, puisse susciter, apporter les œuvres auxquelles, Seigneur, tu nous as appelés, que nous puissions les pratiquer, que cela puisse devenir une façon d'être pour nous, et que nous puissions chérir ta parole encore davantage. Alors, je bénis ma sœur, je bénis mon frère qui se sont joints à nous ce matin. On te demande, Seigneur, d'être avec nous et de nous combler par ta grâce, par ta parole, par cette bénédiction matinale et ce repas spirituel qui est le nôtre ce matin. Que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, je relis pour vous le passage qui était à la base de notre réflexion toute cette semaine dans Jacques. Désolé. Jacques au chapitre 1, le verset 22 à 25, la Bible nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui après s'être regardé s'en va, oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Je relis le verset 25. « Mais celui qui aura plongé les regards dans la parole, dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Alors, la thématique de toute cette semaine, c'était « Ne soyons pas des auditeurs oublieux ». On a essayé de vous exhorter et de s'exhorter chacun cette semaine sur le fait d'avoir un amour tout particulier pour la parole de Dieu. Je rappellerai très simplement que la Bible nous dit que la parole a été faite chair à travers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, ne pas aimer la parole de Dieu ou mépriser la parole de Dieu, c'est mépriser celui qu'elle est, donc Jésus. Et ça devrait être pour nous déjà la première raison d'affectionner, de s'accrocher à la parole et de la méditer à chaque jour davantage. Plus je connais la parole de Dieu, plus je connais la pensée de Dieu, plus je connais les désirs, la volonté, les plans de Dieu pour ma vie, et plus je peux donc les mettre en pratique et lui être agréable. Alors ce matin, celui-là sera heureux dans son activité. Deux termes importants qu'on a déjà étudiés. Le premier, le terme heureux, makarios, M-A-K-A-R-I-O-S. M-A-K-A-R-I-O-S. On a étudié ce terme-là pendant plusieurs mercredis au début de la pandémie, alors que je revisitais avec vous le sermon sur la montagne et ce qu'on appelle les béatitudes, ce passage où on dit « heureux les débonnaires, heureux celui qui pardonne, heureux ceux qui auront été méprisés, heureux ceux qui auront été persécutés ». Donc le terme « heureux », le terme « makarios », qui veut dire « béni », qui veut dire « contenté », qui veut dire « satisfait » et « comblé ». Et le deuxième terme important pour aujourd'hui, qu'on a vu à deux reprises durant ce texte, ce qu'on a étudié dans Jacques, le terme « poiesis », activité, poiesis. On n'a pas vu le terme poiesis en particulier, mais on a vu deux termes qui lui étaient associés, qui étaient dans la même famille. On a vu poietes et poieo. Poietes qui voulait dire produire, obéir ou accomplir, et poieo qui voulait dire l'action de faire une chose. Et ici, lorsqu'on parle de poiesis, donc le terme activité, on parle donc d'un travail qui est exécuté. Alors, deux points importants, et après ça, ça va nous amener, comme je vous ai dit, dans une révision de cette semaine. Celui-là sera heureux dans son activité. Et ça veut dire que le Seigneur, dans ses préceptes qu'il nous donnait cette semaine à travers les écrits de Jacques, il nous donnait l'occasion d'être bénis, d'être contentés et d'avoir ou d'éprouver une satisfaction profonde, d'être comblés par notre travail. Ça veut dire que le Seigneur non seulement veut qu'on fasse des activités, non seulement veut-il que nous produisions quelque chose, que nous portions un fruit, mais ce faisant, il veut aussi que l'on soit comblé et satisfait par l'activité qui est devant nous, l'activité à laquelle il nous appelle. Et cette activité qu'on a vue cette semaine, c'était essentiellement l'étude de la parole de Dieu. Alors je te pose la question, quelle est ton attitude de cœur lorsque tu étudies la parole de Dieu? Es-tu simplement, comme on voyait dimanche, celui qui coche une case en disant « Ah ouais, j'ai lu mes 23 versets de la semaine ou mes 23 versets du jour et puis j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je passe à autre chose. » Est-ce que c'est tout simplement une routine, un train-train habituel que tu fais plus par obligation qu'autre chose? Où tu prends du plaisir dans la lecture et dans l'étude de la parole de Dieu. L'attitude qu'on a par rapport à l'étude, que ce soit l'étude de la parole de Dieu, que ce soit l'étude à l'école, l'instruction qu'on reçoit dans les classes à l'école, ben l'attitude qu'on va avoir face à l'apprentissage va aussi être très déterminante quant à la capacité même d'apprendre. Alors si effectivement j'ai le désir d'apprendre, ce désir va être comblé. Mais si je ne fais qu'une routine qui est, bon, ben la Bible dit que si je suis un bon chrétien, je devrais effectivement lire la Bible, donc pour pas être châtié par Dieu, pour pas être puni par Dieu, pour pas être désapprouvé par Dieu, fait que je vais faire ce qu'il me demande, puis je vais lire ces 23 versets, au moins il pourra pas dire que je ne l'ai pas lu. Si on approche Dieu avec une telle attitude, oui, sa parole va nous parler parce que la parole ne revient pas à lui sans avoir porté le fruit pour lequel elle a été donnée, mais on ne reçoit pas tous les bénéfices et on ne va pas aussi loin dans notre apprentissage de Dieu, dans notre prise de connaissance de notre Seigneur qu'on pourrait le faire si on avait eu l'attitude de cœur. Qui aspire à connaître, qui aspire à savoir. Il y a des gens qui foncièrement passent leur vie avec ce désir de connaître davantage, que ce soit sur les sciences, sur l'histoire, sur la philosophie, sur les grands hommes, sur quelques questions de société. Je suis avide d'informations. Je suis quelqu'un qui va regarder les journaux télévisés régulièrement dans une même journée et sous différentes sources culturelles, donc des sources européennes, des sources nord-américaines, des sources québécoises, des sources canadiennes, des sources américaines, pour avoir une idée un peu mieux faite sur ce qui peut se passer dans le monde. Mais l'attitude que je vais avoir par rapport à la parole de Dieu, si je ne fais que cocher des cases en me disant « j'ai lu, j'ai fait ma corvée », mais ce ne sera pas la même, ça sera pas la même réception. Je n'aurai pas les mêmes résultats que quelqu'un qui sonde la parole de Dieu avec ce désir vif d'apprendre et de connaître davantage. Donc l'attitude que tu vas démontrer dans l'étude de la parole de Dieu va être importante. Alors es-tu heureux lorsque tu étudies la parole de Dieu? Comprends-tu que ce texte a été pourvu de toute éternité pour toi, pour aujourd'hui, afin de t'amener à connaître Dieu et afin de t'amener à être sauvé. Si ces notions revenaient en toi lorsque tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, tu comprendrais que cette parole t'a été donnée par grâce et que cette grâce-là, tu te dois de l'honorer et tu l'apprécierais peut-être davantage, ou on l'apprécierait peut-être davantage si on revenait tout le temps à cette idée que cette parole nous a été donnée pour notre bien, pour notre salut, de la part du bon et merveilleux Seigneur que nous avons. Donc, es-tu heureux lorsque tu étudies la parole de Dieu? La parole de Dieu, le passage de Jacques nous dit que nous serons heureux dans notre activité, heureux dans notre travail de l'étude de la parole de Dieu. Mais quel est ce travail-là? Et c'est là qu'on revient dans un sommaire ou dans un retour sur ce que nous avons étudié durant toute cette semaine. Heureux va être celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite de Dieu, dans la loi de la liberté. Heureux celui qui aura aussi fait son activité quant à persévérer et en n'étant pas un auditeur oublieux. Heureux sera celui qui se sera aussi mis à l'œuvre. C'est de ça qu'on est en train de dire là, ou de parler actuellement. On nous dit que celui qui aura plongé ses regards dans la parole parfaite et dans la loi de la liberté sera heureux, tirera une satisfaction, tirera un sentiment d'être comblé, d'être contenté pleinement. Ça veut donc dire que si je ne fais pas ce travail d'apprentissage de la parole de Dieu, je reste toujours sur une faim, sur une soif. En même temps, je vous dirais que plus j'étudie la parole de Dieu personnellement, plus j'ai envie de l'étudier, plus je découvre des choses dans la parole de Dieu, plus ces choses-là m'intriguent et plus ce Seigneur de qui la parole de Dieu émane et que la parole de Dieu révèle, plus ce Seigneur m'interpelle et me fascine. Mais je ne suis pas sur une fin qui est que mon âme n'est pas rassasiée, que mon esprit n'est pas rassasié. J'en veux davantage parce que je n'arrive pas à être à satiété. J'en veux davantage parce que je suis un assoiffé perpétuel, mais je ne suis pas en manque pour mon âme. Et lorsqu'on parle ici qu'on pourrait ne pas être heureux, ça veut dire qu'on pourrait ne pas être comblé. Et cet état d'esprit, cet état d'être, de ne pas être comblé, vient foncièrement du fait que nous n'avons pas nourri adéquatement notre âme et notre esprit par la parole de Dieu. Alors, voyons comment on s'assure de bien nourrir notre parole, notre être. Premièrement, en pratiquant la parole. Dans le verset 22, on nous disait « mettez en pratique la parole ». Donc, ne pas être simplement un simple exécutant de la parole, celui qui coche, mais qui la met en pratique avec tout son cœur et avec tout son désir de se conformer à celle-ci et de se conformer aux préceptes de son Seigneur et de son Sauveur. De ne pas se borner simplement à écouter la parole de Dieu. Donc, que ce soit comme un son, comme un bruit de fond qui soit derrière nous. Alors, je suis en train de cuisiner, puis j'entends un verset derrière moi, mais pendant que je cuisine, je suis malgré tout en train de passer aux Canadiens qui se sont fait éliminer, aux Expos qui ne sont pas encore revenus à Montréal, à la boxe qui n'a pas encore recommencé au Québec et à la pandémie qui poursuit son chemin parmi nous. Donc, c'est le fait d'avoir un bon temps et d'être plus qu'un auditeur, mais d'être un étudiant, un élève de cette parole, avec ce désir d'être un disciple qui applique les enseignements de son maître. Et il nous dit aussi, en ne vous trompant pas vous-même par de faux raisonnements. Et la pensée qu'on avait lorsqu'on a étudié ce texte dimanche et qu'on l'a répété lundi, c'était que celui qui étudie la parole de Dieu ne l'étudie pas comme on étudie une philosophie, comme si c'était un texte de Socrate, de Platon ou d'Aristote ou de quelque autre philosophe plus contemporain. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous l'étudions comme quelqu'un qui a compris que cette parole est la parole qui émane directement du trône de grâce, qu'elle est parfaite et qu'elle sert à la liberté de l'être humain, qu'elle nous amène à salut, qu'elle nous amène à connaître les voies qui nous permettent d'être sauvés et qu'elle nous amène aussi à délaisser non pas la religion, parce que la religion en soi, si elle est bien faite, elle n'est pas mauvaise. Si la religion est effectivement, comme la Bible dit, de prendre soin de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger, cette religion-là est bonne. Ce qui est mauvais comme religion, c'est ce que j'appellerais plutôt la religiosité. Et c'est là qu'on parlait cette semaine de cette loi de la liberté. Et la loi de liberté mentionnait non pas ce qui nous menait au salut, mais ce qui était toute autre loi, un tout autre précepte humain de coutumes, d'us et de pratiques qui n'ont aucun trait avec le salut, mais qu'on élève jusqu'à un point de salut. Et la Bible nous dit que cette loi parfaite de Dieu est aussi la loi de la liberté, donc de ne pas tomber dans cette religiosité dans laquelle on s'enfonce si régulièrement. Vous connaissez assurément des gens que vous déclarez être des gens qui sont légalistes, donc qui prennent la parole de Dieu et qui en établissent des lois d'hommes. Si tu es chrétien, tu dois ou tu ne dois pas porter de barbe, tu dois ou tu ne dois pas avoir de moustache, tu peux ou tu ne peux pas porter de manches courtes, une dame peut ou ne peut pas porter de pantalon, une dame peut ou ne peut pas porter de boucle d'oreille, une dame peut ou ne peut pas porter du rouge à lèvres. Ces lois-là ne sont pas des lois qui mènent à salut. Et même Paul va dire qu'une question de fait ne soit pas un sujet de division parmi nous, qu'une question de nourriture ne soit pas une question de division parmi nous. Donc, Paul comprenait que certains vont manger peut-être du porc, que d'autres n'en mangeront pas, mais que cela ne constitue pas au salut. Le problème, c'est que plusieurs vont prendre de tels textes, de telles lois, et en faire des questions de salut. Je répéterai même très, très, très clairement, et c'est notre position en tant qu'Église, le baptême ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Par contre, le baptême est une étape importante dans cette manifestation publique que j'ai à l'égard de Jésus, dans cet engagement public que tout croyant doit avoir envers Jésus. Mais ce qui sauve à la base, c'est la mort de Christ sur la croix comme Seigneur et Sauveur de l'humanité. Par contre, certains vont dire, si tu n'as pas été baptisé, tu n'es pas sauvé. L'homme sur la croix à qui Jésus dit dans quelques instants, dans quelques heures, tu seras avec moi au paradis, cet homme-là n'a pas été baptisé. Donc, à la base, Jésus enfreindrait ses propres règles. Donc, la question du baptême est une question que parfois on va élever jusqu'à une question de salut. La question de quelle est l'appellation par rapport à ce baptême, est-ce qu'on dit au nom de Jésus, est-ce qu'on dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit pour l'appellation sur le baptême? Certains vont dire, si tu as l'un et tu ou l'autre, tu es soit sauvé, soit tu n'es pas sauvé. Je répète, le salut, c'est à la base de recevoir, de confesser que nous sommes pécheurs, de reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur qui est Jésus, qui est le Seigneur, qui est le seul et l'unique source de salut. Donc, à part cela, les autres questions ne sont pas des questions de salut. Mais l'homme que nous sommes, avec tous les mauvais traits qui sont les nôtres, on aime tomber dans une religiosité, essayer de savoir lui est sauvé, lui est pas sauvé, lui je pense qu'il va au ciel, lui je pense qu'il s'en va en enfer. Le seul qui foncièrement le sait, c'est Christ. Et ce qui est la base de salut pour tous, c'est que Christ soit l'unique et seul Seigneur et Sauveur d'une vie. Donc, de ne pas tomber dans cet esprit de religiosité. La parole de Dieu, lorsqu'on l'étudie, lorsqu'on la connaît de plus en plus, on sait à ce moment-là déchiffrer ce qui est une question de salut de ce qui est tout simplement une question d'us et de pratique dans le royaume de Dieu. Et les us et pratiques dans le royaume de Dieu existent, et on l'a vu cette semaine, parce que nous sommes un peuple, nous sommes une nation, et toute nation et tout peuple a sa façon de vivre, a ses pratiques propres à eux. Donc, dans le peuple de Dieu, il y a aussi des pratiques de moralité, des pratiques de sainteté, des pratiques de sanctification, des pratiques aussi où on comprend comment on s'approche plus intimement de Dieu. Et si je mets effectivement ces choses en action dans ma vie, effectivement, Dieu se révèle davantage à moi et j'ai un plus grand accès à sa plénitude et à sa présence. La Bible nous dit aussi, quand on parle d'être heureux, c'est ceux qui auront persévéré, n'étant pas des auditeurs oublieux. Donc, ceux qui auront persévéré, ceux qui auront commencé, qui auront continué et qui auront duré. C'est une chose d'entendre la parole de Dieu, d'agir selon ce que la parole de Dieu prescrit. Mais la question, c'est, une fois que j'ai reçu cette parole, est-ce que j'ai continué dans cette parole? Est-ce que j'ai perduré dans cette parole? Ou à un moment donné, après 6 mois, 1 an, 10 ans, j'ai eu l'attitude de quelqu'un qui en connaît assez, qui en sait assez. Et à ce moment-là, j'ai commencé à négliger la parole de Dieu. Si je suis un étudiant de la parole de Dieu, un étudiant assidu, je devrais me rendre compte que plus je l'étudie, moins j'en connais. En fait, ça devrait être l'attitude du cœur qui devrait être nôtre. Savoir que plus j'approfondis, plus je me rends compte qu'elle est tellement profonde. Et en fait, c'est mon cas. Et voilà pourquoi j'aime tellement la parole de Dieu et pourquoi j'ai tellement de plaisir à l'étudier et de plaisir à la partager. Parce que je découvre sur mon Dieu et sur mon Seigneur quotidiennement. Donc, c'est une question de faire face au temps, même dans notre étude de la parole de Dieu. C'est une question au-delà de « j'ai coché mes 23 versets » ou « j'ai passé ma demi-heure ». Je me rappelle lorsque je prenais des cours de guitare, étant bien plus petit, mes parents m'obligeaient à passer une demi-heure par jour à pratiquer mon instrument. Et parfois, j'essayais de tromper, et je sais même pas comment je pouvais m'aventurer à essayer de tromper mes parents comme ça. J'avançais ma montre pour dire que j'avais passé ma demi-heure. Bien sûr, ma montre, c'était pas l'horloge de la cuisine, c'était pas le réveil dans la chambre de mes parents, puis c'était pas la montre au poignet de ma mère ou de mon père, c'était juste la mienne. Et je leur disais, non, j'ai commencé à 1h30 et maintenant, la demi-heure est passée alors que j'avais passé 15 minutes et eux le voyaient très bien dans leur montre respective. Donc, c'est pas une question de temps. J'avais 1h30 puis j'ai dû passer ma demi-heure et j'ai passé ma demi-heure, donc j'ai fait ma corvée. La question de persévérer va au-delà de la question du temps. C'est la qualité du moment que je passe avec Dieu. C'est l'approfondissement constant que je mène dans ma quête de connaître Dieu. Et enfin, hier, on a vu qu'il se mettait à l'œuvre. Alors, pour être heureux, je dois me mettre à l'œuvre. Pour être heureux, à un moment donné, je dois passer du stade de « j'étudie la parole de Dieu et je suis assis et je ne fais rien » à être ses disciples aussi qui partent à la conquête du monde. Le Seigneur a dit « Restez à Jérusalem et il y aura une puissance qui surviendra sur vous. » Et dès lors, vous serez alors mes disciples, mes apôtres, vous serez alors mes ouvriers à Jérusalem, en Judée, en Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, pendant un certain temps, ils devaient attendre que la puissance du Saint-Esprit leur soit accordée, leur soit octroyée. Mais après la Pentecôte, ils étaient appelés à se répandre jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, on doit être heureux que les apôtres ne soient pas restés dans un état attentiste, dans un état où ils restent tout simplement là au pied de Jésus, puis ils attendent et ils attendent. Ils étudient, ils étudient, ils ne deviennent pas eux-mêmes des faiseurs de disciples, parce que si ça avait été leur cas, nous ne connaîtrions pas l'Évangile aujourd'hui, nous n'aurions pas été touchés par le message de Jésus, mais si c'était une vérité pour les disciples de l'Église primitive, c'est aussi une vérité pour nous aujourd'hui. À un moment donné, dans ma propre vie, je dois passer de l'état d'étudiant au pied de Jésus à l'état d'étudiant qui reste au pied de Jésus, mais qui se met à travailler pour Jésus. Donc, je dois me mettre à l'œuvre pour le Seigneur. Je dois faire en sorte d'accepter de mettre du temps, de mettre des efforts, d'être impliqué dans l'avancement de son royaume. Et la Bible nous dit, dans ce verset très clairement, « Ainsi celui-là sera heureux dans son activité. » Ainsi, celui-là sera heureux dans son activité. Alors, la parole de Dieu est importante, parce que la parole de Dieu est la source de ton instruction et la source de mon instruction. Mais cette parole t'est donnée pour que tu deviennes un acteur dans l'avancement du royaume de Dieu. Tu seras toujours un apprenti. Tu seras toujours un élève au pied du maître. Mais cet élève doit commencer aussi à pratiquer. Cet élève doit se mettre debout en action pour son maître. Et ça, c'est bon pour toi et c'est bon pour moi. La conclusion de cette semaine est importante. La conclusion de cette semaine nous dit, oui, la parole de Dieu est fondamentale et vitale dans ma vie spirituelle. Mais cette parole de Dieu doit me pousser à des actions. Cette parole de Dieu ne doit pas rester qu'une simple connaissance, mais ça doit être quelque chose qui me propulse dans l'activité et dans l'action pour mon Seigneur. Et ça doit être une vérité pour moi, ça doit être une vérité pour toi. C'était une vérité pour l'Église primitive. La parole de Dieu était parmi l'Église primitive, mais on voit ces gens qui étaient actifs pour l'œuvre de Dieu et pour l'expansion du royaume de Dieu, et ça doit être la même chose pour toi et pour moi. Tu ne devrais pas, je ne devrais pas, nous ne devrions pas nous contenter d'être simplement des étudiants de la parole de Dieu. Nous devrions devenir des exécutants de la parole de Dieu, des gens qui travaillent et qui font avancer le royaume de Dieu. Alors je prie que la parole de Dieu puisse effectivement t'interpeller ce matin, qu'elle puisse t'interpeller à travers les prochaines heures afin que tu deviennes quelqu'un qui est actif dans le royaume de son Seigneur. Alors prions ce matin et puis après ça, on va saluer quelques personnes et faire quelques recommandations. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole, une parole qui instruit notre âme et notre esprit, une parole qui nous amène aussi à devenir actifs pour toi. Nos tâches, Seigneur, peuvent grandir avec le temps. Plus nous te connaissons, plus nous apprenons de toi, plus tu nous instruis, Seigneur, plus nous sommes amenés à être aptes à te servir. Et je prie qu'il en soit ainsi dans ma vie personnelle, mais qu'il en soit aussi de même, Seigneur, pour la vie de ma sœur et de mon frère. Que cette parole ne reste pas qu'au niveau des oreilles, au niveau du cœur, au niveau de la pensée, mais que cette parole, Seigneur, propulse tes enfants, Seigneur, vers l'avant, qu'elle nous introduise dans une activité tout à fait tangible quant à l'avancement de ton royaume. Chacun d'entre nous avons été appelés avec des dons, avec des talents, avec des capacités, avec un mandat à remplir. Alors je prie, Seigneur, que mon frère et ma sœur ne puissent pas se contenter, ne puissent pas se leurrer eux-mêmes en se disant satisfaits tout simplement de connaître. Mais ta parole devrait susciter cette soif d'être en action pour toi et ce désir de porter du fruit pour le roi. Alors je prie qu'il en soit ainsi pour ma sœur et pour mon frère. Parle-nous, dirige-nous, conduis-nous et permets-nous, Seigneur, d'avoir une part active à l'avancement de ton royaume. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, j'aimerais rappeler simplement deux petites choses. Ce soir, il y a notre assemblée de prière et d'intercession à partir de 19h. Donc, ce sera l'occasion pour vous de présenter des requêtes, de présenter des besoins ou des actions de grâce. On le fera ce soir. Ce sera aussi l'occasion de prier pour la rentrée scolaire qui s'opère ces derniers jours. On a déjà prié vendredi dernier pour tous ceux qui allaient rentrer à l'école. Donc, on va le refaire ce soir. Et probablement que dimanche, on aura un temps aussi de prière spécifique pour cela. De surcroît à cela, donc, on présentera vos requêtes et vos actions de grâce devant le Seigneur. Toutefois, j'aimerais rappeler que les inscriptions pour l'assemblée de dimanche ont toujours cours. Aujourd'hui, ce ne sera pas la sœur Patricia qui va vous contacter. Ce sera ma mère, la sœur Paulette Giacomin, qui va aider la sœur Patricia dans ces tâches-là. Patricia est enseignante au collège, donc elle est revenue elle aussi sur les bancs d'école et elle est occupée avec l'école aujourd'hui. Donc la sœur Paulette va l'aider dans les tâches de confirmer les inscriptions. Donc on vous demande si vous ne vous êtes pas inscrit, je sais que sur la liste il manque des gens qui ont l'habitude de venir, on n'a pas vu vos noms cette semaine, donc assurez-vous d'être inscrit. Pour ce faire, vous appelez au numéro de l'église 514-273-8295. Vous dites que vous voulez être inscrit pour l'assemblée de dimanche et au cours des prochaines heures, donc ma mère va vous contacter pour confirmer la chose. De surcroît, ça, vous pouvez le faire aussi par courriel et ce faisant, vous le faites à l'adresse suivante, secrétariat EAJC, en un seul mot et sans accent, donc secrétariat EAJC à commercial. gmail.com. Donc, et c'est là où vous dites aussi votre nom, votre numéro de téléphone ou votre adresse courriel et vous nous dites les personnes qui vous accompagneront. C'est une dernière semaine avec une restriction pour ceux qui sont 30 ans, qui ont 30 ans et plus. À partir de la semaine prochaine, on va aller de ceux qui ont 12 ans et plus. Les normes de la santé publique ne nous permettent toujours pas d'accueillir les enfants et d'avoir des activités pour les enfants. On prie que cela change rapidement pour pouvoir renouveler les activités de l'école du dimanche avec nos plus petits. Mais pour l'instant, je pense que le gouvernement veut attendre de voir comment ça se passe dans les écoles, quelle est la réponse au niveau de la santé suite à la rentrée scolaire, pour après ça alléger et simplifier les normes. Mais pour l'instant, les enfants donc ne sont pas autorisés. En bas de 12 ans, du moins, ne sont pas autorisés. Donc, la semaine prochaine, ça sera 12 ans et plus. Donc, ça ne sera pas simplement 30 ans et plus. Donc, profitez bien de cette semaine pour avoir un peu plus de place. La semaine prochaine, on va certainement combler l'ensemble de nos disponibilités. Donc, sur ce, on va juste saluer quelques personnes. Je remonte un peu. Plusieurs personnes se sont jointes à nous depuis tout à l'heure. Donc, bonjour Thérèse. Bonjour Cynthia. Bonjour à la sœur Nina et au frère Rigoberto qui sont au Chili. Bonjour à Melida Gamboa. Bonjour à Farley et à la sœur Marie-Andrée. Bonjour Gaëlle. Bonjour à la sœur Adriana, la sœur Marie-Marthe. Plissin, à la sœur Georgette et à la sœur Andrice qui sont avec elle. Bonjour à la sœur Adriana, à la sœur Samek. Bonjour à la sœur Denise, à la sœur Nadège Kouamin, à la sœur Diana. Qui d'autre? Bonjour à Diane, à notre sœur Diane. Bonjour à la sœur Pascal, au frère Andrés, à la sœur Samantha. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Oui, bonjour aussi à ma belle-mère et à ma belle-sœur qui se sont connectées un peu plus tôt. Donc, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous ce soir, 19h, pour notre soirée de prière. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, inscrivez-vous. Vous avez encore quelques heures pour le faire. Et c'est ma mère qui vous contacte plus tard en journée pour les dernières inscriptions. Que Dieu vous bénisse. Passez une belle journée tous. Et on se revoit ce soir pour la prière dès 19h. Que Dieu vous bénisse.